amis, c'est vraiment le bazar sur cette belle planète.
Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net.
Et bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de reprendre l'animation de Cheminons dans la transition de cette émission en partenariat avec l'IJET, l'association L'Île Jourdain en transition. Après une petite pause de quelques émissions de ma part, déjà, on rattaque là pour une saison 2025-2026. Alors, on y avait dit au revoir, mais du coup, elle est de retour. Il y a Cynthia, elle est là. Bonjour, Cynthia.
Bonjour.
Mais que fais-tu ici? Dis donc.
Eh ben, écoute, arriver dans le sud-ouest, c'est avoir des projets et c'est autre chose qui se présente. Et donc là, encore une fois, le projet prévu ne se fait pas. Il y aura autre chose qui va se présenter.
Donc, du coup,
mais je suis ravie de continuer l'émission Cheminons dans la transition.
Eh merci, ben, merci moi aussi. Très content de te retrouver. Du coup, et notre nouvelle animatrice, du coup, elle a déjà fait un petit peu, elle a fait ses gammes. Mais Pauline est là aussi. Salut Pauline, comment vas-tu?
Salut Alex. Bon, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être ici. J'en suis à ma troisième. Ça va être chouette.
Bien sûr, ça va être chouette.
Mais ouais, ça va être chouette. Troisième émission du coup pour Pauline, ouais, c'est ça. Avec du coup, c'est en fin de saison dernière. Du coup, une première. Voilà, comme on disait tout à l'heure, on disait au revoir à Cynthia. On a tellement un long au revoir qu'elle est encore là. Et du coup, et du coup, l'émission avec Isabelle. Alors, on rattaque une nouvelle saison de Cheminons dans la transition. Donc, on le dit, cette émission en partenariat entre Radio Fil de l'eau et l'IJET, ce partenariat qui se maintient. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. De quoi est-ce que l'on va parler cette émission? Je vous laisse la parole. C'est toi, Pauline. Je crois que c'est toi qui commence. Hein.
Je démarre. Donc, on va parler de démocratie alimentaire.
Ok.
Donc, c'est un gros sujet pour intro. Donc, on est à 8 millions de Français qui sont en insécurité alimentaire. On a 18% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a des oiseaux qui disparaissent de nos campagnes. Donc, derrière chaque baguette de pain se joue un choix de société. Clairement. Et notre alimentation n'est pas qu'une affaire de goût, c'est une affaire de santé publique, d'environnement et de justice sociale. Et c'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui, à notre mesure, sur la base d'un rapport publié commandité par 4 associations, c'est l'injuste prix de notre alimentation.
Ok.
Donc les données de ce rapport datent d'un an déjà, mais bon, je pense qu'elles sont toujours d'actualité.
À peu près, à peu de choses près, ouais.
Ouais. Donc ce rapport, c'est commandé par 4 assos. Donc on a le Secours catholique, qu'on connaît, qui défend l'accès à l'alimentation et qui sont plus trop sur l'aide alimentaire institutionnelle, mais plus dans l'accompagnement. Okay. Le réseau des CIVAM, qui est un centre, des centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, donc qui sont en formation d'agriculteurs pour le changement, transformation de leurs pratiques. On a une asso qui s'appelle Solidarité Paysan, qui accompagne sur le plan juridique et social les agriculteurs difficulté. Ouais. Et la quatrième asso, qui est la Fédération française des diabétiques, donc une asso de patients, dirigée par les patients. Et qui sont,
ah oui, on voit que c'est hyper large au niveau des provenances de ces assos.
Donc
voilà,
ces assos, l'alimentation, en fait, c'est l'agriculture, c'est aussi le consommateur et donc les impacts qu'on verra là sur l'environnement, le social et la santé.
Oui, ça marche.
Donc on va faire un tour d'abord chiffré, c'est factuel. Cette étude a été réalisée, je l'ai oublié de dire, mais c'est par la coopérative Le Basique. C'est un bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif. Donc qui analyse les bases de données qui sont diffusables, qui sont accès libre de l'INSEE, et qui analyse les impacts des modes de production et de consommation sur la société et l'environnement, et en particulier l'alimentation et l'agriculture. Je vous invite à aller voir leur site. Énormément d'informations et de documents très, très poussés.
Et c'est important de préciser aussi qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a géré ça, qui ne prend pas à droite ou à gauche, qui fait ça de manière comme tu dis, factuelle.
Des chiffres de données qui sont accessibles à tous. Non, eux, ils analysent.
Ils ont compilé
et c'est ce qui va donner
un
contexte et un des constats assez lourds, en lien avec l'injustice alimentaire. Donc, je l'ai dit au début, on a 8 millions de personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire, c'est quand même 12% de la population française, et dont 2 millions qui ont recours à l'aide alimentaire.
Ouais.
On a plus 160% de diabétiques en France depuis en 20 ans.
C'est énorme.
C'est énorme. On sait que l'alimentation, c'est un facteur de risque avéré pour le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer colorectal. Et l'OMS a qualifié l'obésité d'épidémie. Parce qu'on a plus de 17% en 2020 de personnes en problématique avec l'obésité. Et plus, c'est deux fois plus en 13 ans. Donc c'est énorme.
Ça fait des sacrés chiffres. Quand tu doubles en 13 ans, c'est quand même... c'est représentatif de quelque chose.
Ça devient un problématique de santé publique.
De santé publique, clairement. Quoi, ouais.
On a les agriculteurs, donc on l'a dit, 18% qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc quand on voit qu'ils bossent 70 heures par semaine et qu'ils n'ont pas de vacances, je trouve ça aberrant qu'ils ne puissent pas vivre de leur travail, de leur surtravail.
Ouais.
Un taux de suicide deux fois plus supérieur qu'à la moyenne.
Ouais.
On a trois fois plus d'accidents graves chez les agriculteurs que dans la moyenne des autres secteurs d'activité.
Ouais.
Et après, au niveau social, il y a deux fois plus d'intérimaires dans les chaînes de production, de transformation, agro-industrie. Trois fois plus de temps partiel dans les grandes distributions. Donc, on a un secteur, les salariés du secteur alimentaire qui sont rémunérés, les chiffres disent 20% en moins que la moyenne.
On en avait entendu parler un petit peu, je trouve, sur ces dernières années, justement, de la condition des agriculteurs, du taux de suicide, de la rémunération. C'est pour ça qu'il y a un an et demi, on n'avait plus d'œufs dans les magasins, il n'y avait plus de lait, etc. Mais on voit que, malheureusement, ça s'est un peu tassé et on en entend beaucoup moins parler, alors qu'au final, la situation n'a pas changé ou même a évolué vers le bon. Quoi.
Ouais, c'est dégradé. Et donc, après, il y a le quatrième volet, la dégradation environnementale. Donc là, c'est pareil, c'est plus de 30% des oiseaux qui ont disparu de nos champs en 15 ans, en grande partie à cause de la disparition de plus de 11 000 km de haies par an.
Ouais, ça c'est énorme.
On a 8 animaux d'élevage sur 10 qui ne bénéficient pas de la base, quoi, de liberté minimum, reconnue, quoi, ouais. C'est-à-dire pouvoir manger et boire, pouvoir être soigné et pouvoir être sans peur et anxiété.
Ouais, et puis même juste se déplacer des fois dans un enclos, avoir un espace. Ouais,
mais c'est quand même chiffré à 8 sur 10.
C'est énorme.
Moi, ça me donne des frissons.
Ouais, tu m'étonnes.
Centaines de captages d'eau potable fermés à cause de la présence de nitrates et de pesticides. Ouais. On a 91% de nos cours d'eau qui ont des pesticides. 70% de nos eaux souterraines qui ont la présence de pesticides. Qui ont une durée de vie très très longue. Cynthia, ne pleure pas.
C'est vrai qu'on est parti sur des chiffres.
Parce que moi, ça fait un choc et j'aimerais bien que ça le fasse à beaucoup de personnes.
91%, tu disais,
qui ont une présence. Alors, le taux, on ne sait pas, c'est variable selon.
En tout cas,
nous, sur le bassin de la Save, on y est clairement touchés. On a 45% d'eau prélevée pour irrigation depuis 2014. L'eau qui est à tous, mais qui est prélevée que pour l'agriculture, donc 45%. Les sols, ils sont dans des aléas d'érosion, c'est-à-dire qu'il y a le peu de couvert végétal, on a des coulées de boue à chaque forte pluie, il y a des stress hydrique des sols énormes. Et ça s'aggrave de sécheresse en sécheresse. On n'arrive pas à revenir avec les périodes de pluie.
C'est ça, et
de
le
neige.
Fait d'avoir enlevé les haies aussi, comme tu disais tout à l'heure, justement aussi, on est quand même dans un secteur, nous, qui est très vallonné. Donc forcément, si tu as enlevé toute l'agroforesterie qu'il peut y avoir en bord de champ, dès qu'il pleut, tout coule. Et en bas, ça te fait des lacs, en fait, en bas des champs, et en haut, tu n'as pas d'eau. Et enfin, l'importance des haies a été très. Et de l'agroforesterie a été énormément oubliée sur les 50 dernières années.
Oui.
C'est clair.
Oui, oui. Et le dernier point aussi, c'est par rapport à la pollution, pollution de l'air. Donc, l'agriculture est à l'origine de 95% des émissions d'ammoniac dans l'air. On parle des gaz à effet de serre, on parle du CO2, mais il y a d'autres polluants dans l'air qui sont pas trop mis en lumière.
Ouais, dont on parle moins.
Ouais. L'alimentation, le gros secteur d'alimentation est à l'origine de 24% de l'empreinte carbone de ménages français. Et on n'observe aucune baisse depuis 2015. Donc il y a un enjeu, encore, une volonté politique, enfin nationale, de réduire, de mettre zéro émission de gaz à effet, enfin CO2. Mais il y a des secteurs qui n'avancent pas.
Ouais, entre entre la parole et après ce qui se passe réellement, il y a souvent un écart, assez significatif.
Donc avec ces chiffres un peu énormes, volontairement, enfin là c'est quand même, ça date c'est des chiffres de 2021 quand l'étude elle est parue en 2020, en septembre 2024, donc. Il y a un petit décalage, mais de 5 ans, ça, je pense que ça n'a pas beaucoup évolué. En tout cas, pas dans le bon sens, j'imagine. Et après, il y a les contradictions personnelles qu'on vit tous les jours quand on va faire nos courses. C'est entre je veux nourrir ma famille et je veux donner une rémunération juste à l'agriculteur, mais on se rend compte que ça ne marche pas, que c'est pas ça. Il y a aussi une contradiction entre je veux m'alimenter pour avoir une santé, enfin, et avoir moins d'impact sur l'environnement, mais je n'ai pas les moyens de prendre des choses qui coûtent très cher.
C'est ça.
Donc ça génère une tension, un sentiment d'impuissance,
c'est clair.
Même une défiance et une polarisation sociale. On se met... on est catégorisé.
Oui, c'est ça. Voilà. Ça sectorise un peu quand même.
Le consommateur. Et donc là, c'est le chiffre, les impacts, mais on a aussi le prix de notre alimentation qui a beaucoup de coûts cachés. Et le prix payé à la caisse ne reflète pas vraiment le coût réel pour la société, pour le collectif. Donc les coûts sociétaux, par exemple, c'est estimé à 19 milliards par an de dépenses publiques pour compenser les dégâts d'un système alimentaire. Et dans ces 19 milliards, on a 12 milliards un peu, qui sont réaffectés à la santé pour traiter donc l'obésité, le diabète et d'autres maladies.
Les cancers en tout genre.
Les cancers en tout genre. Donc les maladies professionnelles, est-ce qu'elles sont en tout cas liées aux pesticides? Enfin, il y a beaucoup de choses à réparer. On a une proportion de 3 400 000 qui sera versée vers les impacts environnementaux, donc des pollutions des sols, de l'air, de l'eau, les enjeux climat. Les 3 400 000 aussi qui en lien avec les impacts sociaux, donc les aides publiques, les faibles rémunérations qu'il faut compléter. En plus de ces 19 milliards qui sont de dépenses publiques, compenser pour le dégât des systèmes, du système, on a du soutien public, donc l'argent public, qui est sous forme de subventions, exonérations sociales, fiscales, des achats publics, à hauteur de 48,3 milliards par an. Et 80% de ce montant est capté par les transformateurs et les grandes enseignes.
Yes.
Donc au total, on a 67 milliards d'euros par an qui sont du soutien et de la réparation, donc de l'argent public, pour entretenir un système qui ne fonctionne pas.
Ouais, en fait, c'est fou, parce que c'est ça, quand on t'écoute, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, en fait, je veux dire. C'est-à-dire que, OK, on a relevé ce fonctionnement-là, ça coûte une soixantaine de milliards d'euros par an de faire comme ci, de faire comme ça, mais par contre, on ne change pas, quoi. Je veux dire, on va rester là-dedans, c'est assez fou, cette manière de réfléchir, en fait, ça paraît dingue,
quoi.
Ça va favoriser la maladie plutôt que la santé, c'est incroyable.
Ça paraît dingue.
Et après, dans ces coûts-là, on ne parle pas des coûts non quantifiables, c'est-à-dire la perte de biodiversité, la défiance politique, comment tu peux le perdre de sens dans son travail d'un agriculteur, l'estime de soi, d'aller polluer son sol, je ne pense pas qu'on ait envie de le faire naturellement. Ou alors le sentiment d'exclusion de gens qui ne peuvent pas se payer du bio. Je nourris mal ma famille. J'empoisonne mes enfants presque. Et en plus, mon argent du caddie ne va pas au producteur. Là, il y a un chiffre encore qui est choquant, c'est que sur 100 euros d'achat alimentaire, le producteur ne touche que 7,9 euros.
Donc
il y a une captation de la valeur par les intermédiaires, là, les transformateurs qui payent aux lance-pierres leurs salariés,
en plus,
et les distributeurs qui payent de la pub, quoi.
Ouais,
la pub,
dingue.
D'ailleurs, c'est, euh, C'est pour ces grands groupes-là de distribution, on a 5,5 milliards d'euros par an qui sont alloués à la pub de produits ultra transformés, gras, salés, sucrés, à destination souvent des enfants.
Ouais, en plus. Ouais.
Donc, c'est des Nutri-Score D ou E.
Ouais, super.
Et en face, on a le budget de l'État du Programme National Nutrition Santé qui est à 5 millions. Donc, la pub « Manger 5 fruits et légumes par jour », ça a peu d'impact face à quantité de pubs qu'on reçoit.
5 millions face à 5 milliards, de toute façon, c'est, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Ouais, c'est pas équilibré, c'est pas équitable. Et on n'a pas... Enfin, du coup, le pouvoir public n'a peu de moyens, finalement, à contrer cette masse de pubs massives.
Non, mais c'est vrai que c'est assez dingue pour revenir aussi aux agriculteurs. Et comme tu disais tout à l'heure, ils naissent pas en se disant « Tiens, si j'allais polluer mes sols et polluer la terre demain. » Mais quand tu parles avec certains d'entre eux, en tout cas, ils te disent « Mais en fait, le problème, c'est que tant que... » Voilà, moi, j'ai aussi des rentes et j'ai des choses maintenant à payer et tout. Et tant qu'on ne nous propose pas, en fait, quelque chose de mieux et qui pourra nous rapporter autant et nous permettre de vivre... on va dire du mieux possible, et certains c'est vraiment pas beaucoup comme on disait, tant qu'il y aura rien pour équilibrer ça, en fait, malheureusement pour l'instant moi je peux pas changer parce que il faut que je maintienne ce truc là aussi, quoi. Donc encore une fois, ce serpent qui se mord la queue, il faudrait faire attention. Oui, mais attends, tout ce qui peut être bio, quoi, est-ce qu'on peut aider, accompagner cet agriculteur là ah bah non, ouais, bah du coup forcément il va continuer, enfin pareil, encore une fois, ce serpent qui se mord la queue et qui tourne en rond, quoi.
On compte souvent sur la démarche volontaire, mais c'est presque, ouais, c'est ça, c'est un acte militant de vouloir convertir son exploitation en bio. C'est un parcours du combattant. Mais en fait, c'est plus long. Enfin, ça date d'un... C'est long, quoi. Ça vient de l'après-guerre, ce système-là. Il fallait renourrir toute la population. Oui. Donc, on est parti sur production, subventionnons nos agriculteurs pour que tout le monde puisse manger... Et donc, c'est un choix société qui a été fait. C'est un contrat social qui a été fait à l'après-guerre. Et quand on a tous ces milliards-là, de 48 milliards de soutien public, plus les 290 milliards par an de dépenses que chaque Français fait dans son caddie, quoi, eh ben, on se dit qu'il y a une manne financière qui pourrait permettre d'aller vers une trajectoire plus juste et plus durable. C'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin de données supplémentaires, de moyens.
Ça. C'est un système qui était censé ne pas durer dans le temps, en fait, effectivement. Comme tu disais, on venait de sortir de la guerre, on leur a dit, voilà, il faut nous nourrir tout le monde, en plus avec vous, ce que vous venez de traverser, tout ça, allez-y quand même, voilà, il faut effectivement y aller, mais ça aurait dû avoir une date limite dans le temps, en fait, cette surproduction et cette surconsommation comme il y a eu là, sauf qu'on parle fin de guerre en 45, et qu'on est en 2025 aujourd'hui. Et que
ça fait un petit moment. Oui, est-ce qu'il faut deux siècles pour changer?
Je suis pas sûr.
On n'a pas le temps là.
Non, c'est clair.
Le rapport, il est hyper... on a une synthèse, il y a un rapport complet de je ne sais pas combien de pages, et c'est très intéressant d'aller... Enfin, si vous êtes intéressé, d'aller voir d'où viennent les chiffres, etc. De la démagogie, du factuel. Il fait quand même des recommandations. Parce que bon, on se veut constructif quand même au bout d'un moment. Ils ont une action, ils voulaient ouvrir le débat public et donc ils proposaient quatre volets. Donc la démocratisation, le pilotage du système alimentaire, donc continuer à arrêter de... Enfin, plus réguler le marché en tout cas et donner plus de compétences alimentation aux collectivités, aux projets territoriaux, plus centrés sur le territoire. Il y a aussi un besoin de transparence. Les chambres d'agriculteurs ne sont pas ouvertes aux citoyens. Ouais. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'y dit, ce qui s'y passe. Il faudrait que des collèges de citoyens qui soient mobilisés puissent avoir accès à ces instances-là. Et après, il y a l'éducation populaire. Aller voir les personnes qui sont en difficulté et leur montrer que c'est possible de cuisiner sainement, avec des bons aliments, sans se... Sans faire un trou dans leur budget. Quoi. Donc voilà, il y a ces propositions, démocratisation, et donc d'où démocratisation alimentaire, démocratie alimentaire, pardon. Le deuxième volet, c'est permettre l'accès aux droits et l'accessibilité financière. Donc là, c'est plus général, mais en fait, c'est juste augmenter le pouvoir d'achat des gens, augmenter les minima sociaux, le salaire... le SMIC,
le salaire de base,
l'ajuster en fonction du coût réel de la vie, quoi. et expérimenter. Enfin, il y a des choses qui sont déjà en cours, mais enfin, les caisses alimentaires communes ou les sécurités sociales de l'alimentation. Donc, on a des grandes villes comme Montpellier, comme Clermont-Ferrand qui ont mis en place des expérimentations. Toulouse qui va y aller petit à petit. Le troisième volet, c'est en lien avec l'environnement. Donc, c'est massifier la transition agroécologique. Tu disais que voilà, planter, enfin, rien que planter des arbres dans les parcelles, ouais, ça permet ça. De retenir un certain nombre de volumes d'eau.
Et peut-être cultiver de façon permaculturelle.
Aussi, ouais,
voilà.
Aussi,
après, ouais. On peut aller encore plus loin jusqu'à la syntropie. Enfin, ouais, on a des exemples qui existent sur notre territoire. Donc massifier. Donc il y a aussi une question de transparence du prix entre la marge des distributeurs et l'agriculteur. Bah, il faut encadrer, ouais. La grande distribution, le bio, la marque bio de chaque grande distribution, c'est toujours trois fois le prix.
Ouais, c'est ça. C'est, et donc, puis c'est hyper opaque. C'est hyper opaque. En fait, on ne sait pas quoi.
Ouais. Ouais, tu payes la marge des.
C'est voilà, ça, c'est clair.
Ça fait un peu. Voilà. Il y a réguler la publicité. Pourquoi ne pas interdire des pubs en boucle sur des produits qui sont néfastes sur la santé, quoi. Et surtout quand elles sont ciblées pour les enfants, parce que va, moi, je n'emmène plus mon gamin faire les courses avec moi, parce que sinon je
c'est l'enfer. Ah, mais c'est l'enfer.
Non, je veux ça. Tu vois, alors niveau des yeux, c'est les produits les plus dégueux. Clair, ouais. Et puis après, quand tu vas les chercher, enfin bref. Il y a donc la massification de la transition agroécologique, c'est aussi soutenir l'offre locale, les AMAP, tout ce qui se fait, les restaurations collectives, la transformation des fermes en agroécologie. Et après, il faut aller toucher la PAC, en fait. Oui. La PAC qui subventionne et qui donne des aides, mais qu'on devrait conditionner à des pratiques écologiques et sociales. Parce qu'il y a aussi le travail dans les champs qui n'est pas forcément très, très bien rémunéré. Et le quatrième volet, après, donc c'est la régulation. Alors là, c'est au niveau européen, parce qu'il y a souvent ce discours de dire oh, mais si les autres ne font pas, moi je ne ferai pas.
Oui.
Donc c'est aller réguler au niveau de l'Europe, enfin, un moratoire, enfin, je ne sais pas, sur les libre-échanges, légiférer, et puis mettre en avant les objectifs environnementaux et sociaux et pas autre chose. Et il y a aussi des propositions de stopper l'exportation des pesticides interdits en Europe. Pourquoi on n'interdit pas l'importation de certains
oui, mais c'est ça,
qui sont
c'est,
déjà interdits.
C'est ça, il y a des trucs qui sont interdits.
Arrivent.
Exactement, ouais, ça c'est assez dingue. Il y a, nous, en Europe, il y a des produits qui sont interdits et tout, mais par contre, d'importer des produits qui ont été traités ou quoi avec ces produits-là, ça pose pas de soucis. Enfin, c'est assez dingue. Et même pour en revenir à la publicité aussi, quand on voit le nombre de milliards d'aides aussi qui sont données aux entreprises, à la grande distribution, à ce genre de choses, alors que tu regardes les PME et les TPE sont en galère, hein, pas permis, tu vois. Enfin, il y a quand même plein de choses à rééquilibrer, à réfléchir différemment,
bien
c'est
sûr.
Clair.
Bon voilà, recommandations. Et alors du coup, qu'est-ce que ça apporterait donc en conclusion, c'est un revenu décent aux agriculteurs, une réponse à l'écologie et à la santé, et un accès universel à l'alimentation saine et de qualité, quoi. C'est juste. Et aussi une restauration de la confiance en nos politiques.
Ça paraît
coup,
fou.
Là, on sert la vie. Quand on met tout ça en place et qu'on a quelque chose de sain et pour la santé, pour l'écologie, pour les agriculteurs, alors on sert la vie. Et ça, c'est autre chose.
Ouais. Et puis ça paraît dingue, enfin, parce que tu vois, cette conclusion-là, quand on discute là entre nous, c'est des choses qui pourraient nous paraître tellement naturelles, en fait. Tu vois, la
logique.
Bonne rémunération, manger correctement, manger quelque chose qui ne te rend pas malade, rémunérer les gens qui le produisent à juste valeur.
C'est du bon sens.
Ouais, mais c'est tellement personnel, malheureusement, en fait, trop subjectif, apparemment, le bon sens. Ouais. C'est assez dingue. On fait la première pause musicale, Tony ou Pauline
Juste pour dire, que moi,
vas-y,
je
voulais
un témoignage personnel, en fait.
Vas-y,
c'est que
sûr.
Moi, personnellement, quand j'ai lu ce rapport, ça m'a fait un choc.
Ça s'entend.
Enfin, franchement, j'ai un peu la voix. C'est étonnant. Enfin, et en plus, cet été, j'ai ma filleule qui a perdu sa meilleure amie, elle avait 14 ans, okay, pour un diabète mal soigné. Donc là, ça m'a fait remonter. Non, mais c'est pas possible qu'en 2025, on en soit là. Donc en fait, juste l'accès à l'alimentation saine est un droit fondamental et qui, au même titre que le droit au logement ou le soin.
Ouais, c'est clair.
Et Et nous, à l'IGET, du coup, on œuvre là-dedans, on propose et on fait connaître des bonnes pratiques. Et une autre anecdote aussi que je voulais raconter, c'est Marianne, une de nos libellules, là, qui travaille activement dans les jardins. Elle a créé un petit jardin partagé dans son coin, dans son quartier, sur le domaine public. Et du coup, ça a créé du lien entre les voisins.
Ah,
elle plante principalement des choses comestibles. Et une fois, une collégienne louchait sur les beaux raisins qu'elle n'osait pas se servir. Et sa mère l'accompagne et « Ah, je peux me servir parce que je n'ai pas les moyens d'acheter des fruits à mes enfants. » Et du mal, allez-y, prenez. Marianne, c'est pour ça, c'est fait pour ça. Et voilà, donc
c'est pas loin, en fait,
l'alimentation, c'est pas seulement nourrir son ventre, en fait, c'est pas juste remplir son ventre, c'est pas seulement un besoin primaire, c'est aussi social, identitaire. Il y a tout un sujet d'identité à la famille, à la culture, à la communauté.
Ouais.
Donc en fait, il y a tellement de biais à travailler que c'est très très intéressant. Et il y a aussi le côté hédonique, quoi, se faire plaisir, la bonne gastronomie française avec notre côté énorme. Bon, il y en a d'autres qui aiment moins parmi nous. Mais moi, je dis pas non à une bistronomie
locale. Et puis même, on peut effectivement réfléchir les choses très certainement différemment, mais en tout cas, ça n'empêche pas qu'effectivement, on est en France, on sait qu'on est un pays quand même de gastronomie avec plein de choses et tout ça, et que ouais, on mange aussi pour se faire plaisir. Mais je me rappelle, j'avais fait une interview il y a quelques années, et ce mec-là m'avait dit une phrase que j'ai retenu, qui disait l'alimentation est très certainement le premier des médicaments, en fait, tu vois, aussi. Et j'en suis vraiment persuadé, et ça, c'est quelque chose qui m'est resté, parce que j'en suis persuadé, quand même.
Hippocrate disait que ton alimentation soit ta première médecine.
Et
les médecins, les étudiants en médecine ont un cours sur l'alimentation sur leur cursus de 7 ans.
C'est dingue.
Donc voilà. Il y a du boulot.
Allez, on va faire la première pause musicale de cette émission, donc du mois d'octobre, de Cheminons dans la transition sur la démocratie alimentaire. Qu'est-ce que l'on écoute en premier morceau, Pauline ?
Mais c'est Ridan avec l'agriculteur.
Ouais, bah voilà, on reste dans le thème, on écoute ça.
J'aime.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. J'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Je n'ai n'ai plus vu ce coin de soleil à l'horizon. Ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on...
Et vous êtes toujours dans Cheminons dans la transition, l'émission en partenariat entre Radio Fil de l'eau et Liget, l'île Jourdain en transition. On vient d'écouter le morceau de Ridan qui s'appelle L'agriculteur, qui sortait en 2003. On voit que les thèmes et les sujets sont effectivement toujours d'actualité. On parle donc aujourd'hui dans cette émission de démocratie alimentaire. Voilà. Pauline nous a fait un constat un peu dur en début d'émission, mais voilà, comme elle disait aussi, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est important de dire ces chiffres aussi parce qu'ils sont choquants. Effectivement, ils choquent, ils surprennent, ils heurtent, mais ils sont là, ils sont réels, ils sont factuels, quoi. Donc effectivement, ça peut surprendre et ça peut blesser quand on entend tout ça, mais justement, ça peut aussi peut-être provoquer un électrochoc, ce qui paraît normal parce que ce sont des chiffres, voilà, des plus vérifiés et des plus vrais. Donc voilà, après cette partie là on va parler un petit peu aussi de ce qui se fait sur le territoire. On le sait, le Gers c'est quand même un département assez assez ambivalent sur le sujet, parce qu'on a nos grosses exploitations de plein d'hectares, justement sans aucune haie, sans aucun arbre entre les parcelles, mais il y a aussi des gens, des associations, des gens qui essayent de faire des choses aussi, qui se battent contre ça, et c'est de ça que tu vas nous parler un petit peu, toi, Tinsia.
Oui, alors pour revenir aux chiffres, en fait, ils sont juste inacceptables. Ouais, et ils sont juste inacceptables, ils sont trop tout ouais, et trop destructeurs. Donc effectivement, il y a énormément d'initiatives sur le Gers, et j'ai pas pu faire la liste de tous.
Ah non, mais c'est
parce que visiblement, il me faudrait plus d'une heure d'émission, okay, simplement pour faire la liste. Donc on peut déjà être content de ça.
Il y a beaucoup
d'initiatives. Alors d'abord, j'avais envie de vous parler du Petit Marché qui est 17 rue Caballot. C'est le jeudi de 16h à 18h30 et elle vend des légumes bio.
Ok.
Donc, on vous laissera les coordonnées pour pouvoir la contacter. Ouais. Donc, toutes les semaines, cette personne vend des légumes en fait. Elle organise son petit marché et c'est rue Caballot.
Elle est Jourdain.
Oui, je
connais pas toutes les rues de l'île Jourdain, pardon. Excuse-moi, j'ai pas pris mon plan de l'île Jourdain pour l'émission.
C'est la rue qui est vers la halle, derrière, en haut.
Mota di Livenza.
Ah oui,
Mota di Livenza, et il y a Caballo.
C'est vrai, je l'avais jamais prononcé comme ça. Hein. Moi, c'était Mota di Livenza. Ça marche, donc oui, sur le haut de l'île Jourdain, oui. Ça marche, ok.
Donc, son petit marché, c'est de 16h à 18h30, tous les jeudis.
Okay.
Ensuite, on a Jardin et Potager Barbeur. Là, ils proposent de la cueillette et c'est de 9h30 à midi, de 14h à 18h, du lundi au samedi. Et c'est à Théoulière.
Ouais.
La Théoulière.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Il y a aussi les serres Della Rosa. Alors, tout est attaché. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment de l'italien ou du portugais.
On ne sait jamais, au cas où.
C'est à Pujaudran, là, par contre. Et c'est un maraîcher sur sol vivant. Alors, ça aussi, c'est important pour moi de le noter, l'histoire du sol vivant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire du bio et qui ne font pas gaffe au sol, ouais, qui ne sont pas sur sol vivant. Du coup, ils appauvrissent les sols. Et ça, ça marche
ça
pas
va
pour
avec,
l'avenir.
En fait, ça va avec, en fait. Effectivement, tu peux ne pas traiter ce que tu plantes ou ce que tu fais pousser, mais si tu ne t'occupes pas de ta terre,
voilà,
effectivement, ça risque de poser souci.
Si tu ne restructures pas le sol, ça fonctionne moins bien, quoi. Et donc, elle fait de la vente à la ferme, une grande variété de fruits et de légumes, et on peut commander par le site.
Okay.
Il y a les vergers de Popen à Éclassant. Voilà. Qui fait de la cueillette de pommes bio et de poires. Et elle fait aussi des ventes à la ferme. Donc, les ventes à la ferme, c'est de novembre à juin, de... le lundi de 14 à 18. Et pour les cueillettes, c'est de fin septembre à début novembre. Et c'est tous les jours.
OK.
Après, il y a... alors là, eux, ils ont énormément de choses. C'est Jardin Terra Ferme.
Terra Ferme. Castillon-Savès.
Je vais forcément tout vous prononcer
Terra
avec
Ferme.
Je vais forcément tout vous faire avec l'accent italien. C'est, ouais,
c'est l'accent occitan.
Oui, oui, je sais bien, mais que, voilà.
Oh, ça se ressemble.
Désolée. Donc, Jardin Terra Ferme, ils font des paniers solidaires de légumes bio. Ils font des chantiers d'insertion. des ventes à la ferme, de l'agroforesterie. Ils accompagnent à la professionnalisation et ils font des ateliers de cuisine. Ils ont un petit marché qui est le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 18h. Donc voilà, ça marche un peu comme une AMAP avec des petits paniers et des grands paniers
ouais.
aussi.
Ouais.
Donc eux, ils étaient, enfin, quand j'ai cherché, c'était vraiment passionnant tout ce qu'ils
proposaient. Ils font énormément de choses. Ouais. Nous, on travaille régulièrement avec eux. Ils sont venus régulièrement à Radio Fille de l'eau, j'étais faire des reportages là-bas et tout, parce que c'est vrai que c'est, ils font vraiment partie des structures dans le coin. Donc ils sont à Castillon-Savès, donc là, ils sont à une dizaine de minutes de l'île Jourdain, et c'est vrai qu'ils.
Même y aller à vélo.
Oui, en plus, oui, depuis l'île Jourdain, oui, effectivement, ouais. en passant en vélo, en passant par derrière, via Marestin et tout, là, tout ouais. à fait. Ouais, c'est très sympa. Et en plus, ils prennent vraiment le temps. Ils sont vraiment chouettes, ouais, du côté de Terra Firma.
Et le mouton noir qui fait camping, qui fait vente à la ferme. Alors, c'est des œufs, des légumes, des conserves. Et c'est aussi un lieu de spectacle et d'atelier, mais un chouïa engagé.
Oui, oui, très engagé. Oui, oui. Très, très engagé. Ouais. Un gros chouïa, quoi. Ouais. Un gros chouïa. Oui, ouais, le camping du mouton noir, ils font effectivement énormément de soirées. Ces derniers temps, forcément, ils parlent beaucoup de la Palestine, mais ils font des soirées un peu de découverte. Justement, ils invitent des chefs pour faire à manger des plats typiques de telle ou telle région, de tel ou tel pays. Et chouïa engagé. Ouais, c'était une bonne question. Hein.
Chouïa engagé. Il y a l'épicerie solidaire de Mauvezin, qui est une épicerie solidaire qui... Alors, c'était un peu compliqué à comprendre,
mais visiblement, locale,
c'est l'action locale. Et il faut monter un dossier et on peut avoir des aides pendant 3 à 6 mois pour avoir accès à cette épicerie.
C'est ça, c'est quand tu parles d'épicerie solidaire, c'est vraiment en fait le principe entre guillemets de base de la manière de faire, c'est ça, c'est que vraiment ils se basent en fait sur les revenus, sur ce genre de choses et du coup voilà, donc c'est un petit dossier effectivement à rendre au départ pour prouver que malheureusement t'es dans le besoin et t'as besoin d'accéder à cette épicerie solidaire, mais au moins on sait que vraiment ça part aux personnes qui sont peut-être le plus dans le besoin quoi. Mmh.
Après, j'ai appelé ça la parcelle Anna Marley. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a une coopération entre, si j'ai bien compris le truc, entre la mairie et l'IGET et les associations
d'aide alimentaire.
Et donc, il y a un terrain où l'IGET, en accord avec la mairie, va cultiver dessus et les bénéficiaires cultiveront aussi. Comme ça, ils vont apprendre à cultiver et ils pourront avoir accès à des légumes frais.
Ok.
Des légumes et fruits frais. Et j'ai vu aussi une association qui est Aux Arbres Citoyens. Donc, Aux Arbres Citoyens, là, ça va... tu es un propriétaire. Tu as un potager.
Ta phrase m'a fait très bizarre.
Ouais.
Parce que
hein, t'avais... Ouais.
Tu es un propriétaire. Donc, non, cette association, ça va. Tu es un propriétaire.
Ouais, non, mais je partais dans mon exemple. Pardon.
Non, on va tuer aucun propriétaire. Hein, si, non, vous non. Êtes propriétaire.
Si vous êtes propriétaire, que vous avez des choses à récolter et que vous n'arrivez pas à le faire ou pas le temps, ou partez
vacances.
C'est
la production. Ouais.
Voilà. Mm. Donc, vous appelez Aux Arbres Citoyens et dans ces cas-là. Elles arrivent avec, je dis elles parce que hier j'ai rencontré deux femmes.
D'accord.
Il doit y avoir des hommes dans cette association.
Ouais, oui.
elles viennent avec des bénévoles et donc ils cueillent tout ce qu'il y a à cueillir. Et 80% de la production est redonnée aux associations okay. alimentaires. Et puis une partie est donnée aussi aux bénévoles qui ont travaillé.
Ok, génial.
Et parfois... Parfois, sur le site, c'est marqué qu'il y a aussi une partie pour le producteur, mais elles m'ont dit hier que, en fait, non, le propriétaire ne prend jamais.
Ok, d'accord.
Voilà. Et il y a le même style par rapport au glanage et par rapport au maraîcher, c'est-à-dire un maraîcher qui doit nettoyer rapidement toute sa terre. Mais il reste des légumes parce qu'ils n'ont pas le bon calibre, parce que psy, parce que ça. Et bien, pareil, il y a les bénévoles qui arrivent et qui nettoient tout ça. Et donc, c'est réparti selon la okay. même façon. Donc, on peut aussi saluer dans les initiatives le fait que la mairie a mis de l'alimentation bio pour les cantines.
Oui.
Et je crois que j'ai fait le tour des...
Mais moi, je voulais juste rajouter... Oui, c'est ça, il y a énormément de choses.
Oui, il y en a d'autres.
Nous, je sais que tous les ans, du côté de Montfort et de Fleurance, donc voilà, un petit peu plus sur le nord du département, on sait qu'il y a l'ADR 32 qui propose, qui fait l'opération qui s'appelle Croque ton jus, en fait, qui justement la met à disposition, l'appareil pour faire son propre jus de pomme. Tu viens avec tes propres pommes, ils se promènent de village en village comme ça, et tu viens, t'amènes tes kilos de pommes, donc propres, bio, etc. Ils les passent à la machine et tu repars directement avec tes jus de fruits faits de tes propres fruits. Il y a pas mal d'initiatives aussi, je pourrais pas toutes les citer, mais justement parce que nous, Radio Fidelon, on est aussi donc sur tout le pays port de Gascogne, donc on monte jusqu'à Lectoure, La Romieux, etc. Je sais qu'il y a les jardins à La Romieux, etc. Voilà, on sait que on est sur un territoire, comme on le disait, où il se passe plein de choses. Tout près d'ici, à Montbrun, je crois, il y a le jardin de la Marquise aussi, Perma GG, qui propose pas mal de choses. Enfin voilà, il y a vraiment cette ambivalence, comme on le disait, dans le département entre... Ben voilà, ces grosses, ces énormes fermes, ces énormes productions, mais aussi voilà toutes ces initiatives, toutes ces assos qui font des choses. On l'avait vu pendant la période Covid, aussi pendant la période sanitaire, il y avait eu énormément de relais, de choses, d'actions qui s'étaient mises en place pour continuer justement, pour pouvoir continuer à faire vivre les producteurs et nous continuer à manger aussi plutôt correctement, pas être obligé de passer forcément par les grandes surfaces et la grande distribution. Donc voilà, on voit qu'il y a une vraie, et que c'est un vrai sujet, ça l'est depuis longtemps, mais on voit quand même malgré tout que ça prend et qu'il y a des choses et qu'il y a des gens qui font des choses aussi. Et ça, c'est quand même assez important, quoi.
Ouais, et nous, à l'IGET, on a vraiment envie de s'investir de ce dossier et on a créé tout près, un groupe de travail sur la démocratie alimentaire. Okay. Et je pense que notre première action, ça sera de mettre en lumière tout ce qui se fait et les liens entre les uns et les autres, parce qu'on ne va pas refaire. Enfin, voilà. L'idée, c'est pas de reproduire ce qui existe déjà, mais c'est de le mettre en avant, quoi.
Oui, c'est ça, essayer de mailler un peu le territoire, essayer de faire un petit réseau comme ça, de mettre en contact les gens les uns avec les autres, de dire, ah, mais si t'habites dans tel village, mais oui, mais ça, là-bas, il y a une cueillette, il y a un truc, je savais pas, etc. Et juste au moins déjà de transmettre juste l'info, et forcément, après, ça arrive à bon port. Allez, avant de passer à la gazette donc de l'IGET, de savoir tout ce qui va se passer durant ce mois d'octobre, seconde pause musicale, qu'est-ce que l'on écoute cette fois-ci, Chelsea?
Les Formidable Vegetables. Yield.
Yield, c'est ça.
Yield, ça veut dire faire ta production, en fait.
C'est ça, produit.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Allez, on écoute les Formidable Vegetable Sound System et on passe à la gazette de l'IGET.
It's somehow good for you. Got to get a result or two in the form of something real. Now if you're feeling stressed and not the best and have trouble finding happiness, well, here's one thing I will suggest. Go tame yourself, yield. Tame yourself, yield. Sustain your energy. Don't drain yourself, maintain. Only yield. You could be making a bigger deal about what you eat for your next meal. You can't run on an empty tank. Ignore the stash of cash in your pocket. Just make a salad with some homegrown broccoli. You just have to go out the back and pluck it. No need to go to the bank. You gotta work your days for stuff that pays. Not just money, but in many ways. It's time you clear away the haze. Maintain yourself, yield. Yourself a yield, something you can eat. You can produce some things of use with your own two hands and feet. Obtain yourself a yield, right in the here and now. Make sure to earn something in return. Here, let me show you. Sleep, and if you feel like there's no
out enough air, then breathe in very deep. And if you're thirsty, then you order, get yourself a drink of water. And if it's gonna be cold and you're feeling bold, you can cheer yourself a sheep.
As a matter of fact,
in any given moment, there's everything you need. Just look around, it will be found. And obtain yourself a yield. Obtain yourself a yield.
That's better.
Take only what you need. Life's pretty fun when you're getting some, but there's no need for greed. Obtain yourself a yield. Sure to seal both ends of the deal. What's good for both of you? Yeah, an easy way to do it is to give one to your friend. Because the good things you do come back to you, and the yield just never ends. That's right, the good things you do come back to you, and the yield just never ends. Yeah, the good things you do come back to you, and the yield just never ends.
Et vous êtes toujours dans Cheminons dans la transition. Cette émission du mois d'octobre, cette émission en total partenariat entre Radio Fil de l'eau et Ligette, l'île Jourdain en transition. Donc le sujet du jour était la démocratie alimentaire. On termine cette émission comme on a l'habitude de le faire avec la Gazette. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu durant tout le mois d'octobre du côté de Ligette ou sur le territoire en tout cas?
Beaucoup de choses. Alors déjà le 11 octobre, il y a deux événements qui sont au même lieu. Donc c'est le 11 octobre de 14 à 17 heures à la MJC.
Oui.
On a d'abord un ripar café. Donc le principe du ripar café, c'est j'ai des objets cassés et je veux les réparer, mais je ne sais pas forcément comment le faire. Donc je viens et puis là il y a des bricoleurs qui adorent bricoler
des
et des MacGyver qui vraiment se débrouillent super bien et savent faire. Et du coup, ils nous apprennent. Alors, soit ils font à notre place, mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre avec eux comment réparer notre truc. Et il y a déjà eu, il me semble, deux répare café et l'ambiance était vraiment chouette.
Ouais, c'est enfin, très chouette. Ouais, c'est un beau moment.
Le même jour, au même lieu, il y a l'atelier troc-plante d'automne avec des découvertes dégustation. Voilà.
C'est à la MJC.
J'ai dit que c'était au même endroit. Oui. Alors après, il y aura d'autres Ripper Café le 31 janvier et le 30 mai. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, on en reparlera. Le 14 octobre de 19h30 à 21h30 à la MJC, il y a une conférence « Éviter les polluants dans mon environnement ». Alors l'idée, c'est vraiment de repérer les polluants de l'air intérieur, les substances toxiques, les perturbateurs endocriniens et ce qu'on appelle les fameux
PFAF. Les PFAF.
Les PFAF. Et puis, ensuite, le deuxième point, c'est d'identifier les alternatives saines et de partager les ressources pour aller plus loin et donc se créer un environnement qui est sain à l'intérieur.
C'est ça, parce qu'on parle souvent effectivement de la pollution extérieure, parce que c'est des choses dont on entend beaucoup, évidemment, bien sûr, mais c'est vrai qu'aussi, on pense peu à nos polluants intérieurs, à l'intérieur de chez nous, dans nos maisons, dans nos apparts, dans nos trucs. Voilà, qu'est-ce qui peut polluer l'intérieur de notre maison? Et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle très peu.
Et cet atelier est animé par France Nature Environnement et le CPIE du GERS, en partenariat avec l'IGERS.
Bien sûr.
Du 29 septembre au 5 octobre, on peut visiter tous les tiers-lieux parce qu'il y a un événement qui s'appelle Vivez l'expérience des tiers-lieux. Au niveau des jardinodromes, le 19 octobre, à 14h, il y a un chantier.
Jour de mon anniversaire.
Ouh. Et ils ont prévu de faire ça au début des vacances
Des vacances de la Toussaint, là, ouais.
Ouais. De façon à ce qu'on puisse venir avec les grands-parents, les petits-enfants, enfin que ce soit un moment familial et chouette tous ensemble. Dans les autres informations, donc le 2 octobre, il y a le marché à Écosserre à partir de 17h30 jusqu'à 20h30 dans le parc de la Côme. L'idée, c'est de rencontrer les assos et les producteurs locaux qui sont engagés dans l'agriculture biologique.
Ok.
Le 4 octobre aussi, il y a la journée porte ouverte de l'habitat participatif. La coopérative Alter Habitat Lillois propose un café-rencontre à 14h, le samedi 4 octobre.
14h30.
14h30, pardon.
Oh, tu voulais une demi-heure d'avance, c'est pas grave.
Et c'est donc le lieu, c'est 14 rue de la Save, au château de Panin. Le 13 octobre, il y a à 20h30 au cinéma Olympia le film Les Soulèvements. C'est dans le cadre du Festival international du film de l'environnement.
Okay.
Donc Les Soulèvements, c'est un documentaire qui reprend le parcours. L'histoire un peu, ou en tout cas l'expérience des soulèvements de la Terre.
Ok, yes, d'accord.
Voilà. Et on en reparlera à un autre moment, parce que ce n'est pas programmé pour octobre, mais il y aura bientôt des ateliers du travail qui relie.
Ok.
Animé par moi-même.
Très
voilà.
Bien. Donc, quand on aura des petites dates, quand on aura des petites choses, bien évidemment, on vous le dira. Dernière chose avant de conclure, justement, là, on a eu toute la gazette un petit peu et tout, mais si on n'a pas assimilé toutes les informations qu'on vient de donner ou quoi, où est-ce qu'on la retrouve, où est-ce qu'on clique, je ne sais pas, le site internet, les réseaux sociaux de l'IGET ou quoi, dites-nous tout, où est-ce qu'on retrouve un peu toutes ces infos?
Alors, la gazette, on peut la recevoir sur son mail en s'inscrivant sur le site lillejourdainentransition.fr.
Ok.
On peut inscrire son mail et la recevoir tous les mois. Elle est envoyée par mail. Pour avoir accès aux ateliers, c'est sur inscription. Donc, c'est pareil. C'est sur le site internet, vous avez les contacts. Okay. Donc, vous pourrez facilement envoyer un petit mail. Et après, on est en présence sur les stands. Là, par exemple, jeudi prochain, on est à l'Écosserre présenter okay. Les actions de l'IGET. Et on était à l'Île Verte aussi.
Le week-end dernier,
c'était un beau moment. Peu de monde, mais on a pu échanger pas
c'était
mal.
C'était une première aussi,
une grande volonté d'en faire d'autres. Ben donc oui. Ça, c'est totalement organisé par la mairie. Nous, on était en soutien d'animation, mmh. mais c'est quand même une action mairie qui montre qu'on avance.
On avance entre
la restauration bio pour nos enfants et enfin oui, il y a quand même des actions. On peut le saluer.
Oui, tout à fait. Ouais. Une grande pensée à Madame Martine Rocchini qui était venue présenter justement au micro de Radio Fil de l'eau ce joli week-end de l'Île Verte en compagnie de Lisa Chaplin également. Donc voilà, on voit que effectivement il se passe des choses et même au niveau politique territoriale aussi, on se penche sur le sujet et voilà de mettre en avant comme tu disais ce qui se fait également sur le territoire via les politiques territoriales. C'est une bonne chose aussi à soulever et à mettre en avant également. Merci beaucoup à toutes les deux, Chinsia, Pauline, donc pour cette émission du mois d'octobre, donc de Cheminons dans la transition, donc sur la démocratie alimentaire. Elle est bien évidemment retrouvable en podcast sur le site de radiofildelo.fr dans l'onglet Cheminons dans la transition. Merci beaucoup à toutes les deux. Mois prochain.
Toi.
Salut.
Ciao.
Au revoir.
Mes amis, c'est vraiment le bazar sur cette belle planète.
Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net.